Moi, quand j'étais en entreprise, trois phases dans le recrutement. Première phase d'orientation dans une grande entreprise, encore une fois. C'est-à-dire contact avec quelqu'un du service recrutement, je l'ai fait pendant longtemps, puis après c'était des gens de chez moi, sur quelles sont les différentes possibilités de contrats qui existent dans notre entreprise, c'est-à-dire différentes affectations possibles, ça peut être là, ça peut être ailleurs, etc. Donc une phase entretien exploratoire. Deuxième phase, vérification du savoir et du savoir-faire avec des professionnels du domaine qui émergent à la suite de l'entretien exploratoire. Vous voulez faire effectivement du développement dans tel domaine, on vous envoie dans un bureau d'études, etc. Et vous allez discuter avec des professionnels qui vont vérifier vos compétences professionnelles, votre savoir et votre savoir-faire. Troisième phase, vérification ou pari. Je reprends mon expression tout à l'heure, pari sur la probabilité de réussite d'un individu donné dans une organisation donnée. C'est-à-dire, traduit en langage de ma boîte à l'époque, un comité de recrutement avec des gens d'autres profils que de celui qui vous intéresse, c'est-à-dire que dans l'hypothèse du développement, ben, vous aurez à ce comité de recrutement un directeur financier, le patron de la trésorerie, un juriste de l'entreprise, qui ensemble, on va avoir une réflexion sur les possibilités, la probabilité d'insertion et les possibilités d'évolution, hein, dont je parlais tout à l'heure. Et avec des gens qui ne sont pas de votre profil, ça veut dire qu'une des choses qu'il faudra que vous maîtrisiez en entretien, c'est l'adaptation de votre discours à l'interlocuteur. Dans la deuxième phase, vérification du professionnalisme, vous avez en face de vous des gens qui sont dans votre milieu actuel. Vous devez utiliser le jargon que vous utilisez avec votre directeur de thèse d'aujourd'hui pour prouver effectivement à l'interlocuteur que vous avez des compétences pointues. Je vérifie effectivement une expertise. Je vérifie la connaissance en finance d'un comptable, la connaissance juridique en droit des affaires ou en droit des brevets internationaux, peu importe. Donc là, il y a effectivement une phase de vérification. Et quand je parle du langage, c'est important également, vous devez utiliser un langage de professionnel. Troisième phase, on va revenir un peu sur les mêmes sujets. Pourquoi voulez-vous entrer chez nous? Comment voyez-vous votre évolution? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et là, vous avez des gens qui ne font pas partie de votre sérail, de votre milieu. Donc, vous devez adapter votre langage à l'interlocuteur. Et la même question étant posée par un technicien ou par un généraliste, j'entends par le patron du labo ou par le DRH qui, comme moi, ne sait rien dans aucun domaine, ben, il faut effectivement que vous répondiez à la même question avec des argumentations et avec des mots différents. C'est une chose à laquelle j'ai toujours attaché énormément d'importance, c'est l'adaptation du discours à l'interlocuteur. Et je le faisais quand j'étais en entreprise et je le faisais quand j'étais en cabinet, quand j'étais chasseur de tête.
J'étais un petit peu surprise par le fait de dire que c'est donnant-donnant, c'est un contrat. Ça, c'est effectivement, c'est vrai, je comprends très bien ce qu'on veut dire par là. L'employeur a peur de se tromper, l'employé aussi. Mais finalement, ce que j'observe dans l'insertion des professionnels, des doctorants qui sont autour de moi, c'est que ce rapport de force est quand même très inégal. Et que dans la conjoncture actuelle, notamment à Montpellier, où l'offre semble quand même saturée, c'est pas tellement du donnant-donnant. L'employé est prêt à tout pour avoir un CDD de 6 mois, d'un an. C'est vraiment très précarisé, très difficile. Donc cet aspect où on est tous les deux sur un pied d'égalité, futur employé et employeur, ça m'interpelle quand même. Même si je comprends l'idée en théorie, en pratique, c'est pas ce que j'observe, moi. Alors, peut-être qu'il y a d'autres cas et je l'espère. Et partant de ce constat-là, comment on fait pour négocier son salaire? On a fait des années d'études, on s'est battu, ça a été difficile. Voilà, on arrive pour certains à bac plus 10. Comment on fait pour négocier son salaire étant donné la demande qui est si forte, l'offre si restreinte, qu'on n'a pas forcément envie d'aller se mettre dans un RER à Paris où c'est une ville saturée, etc. On n'a peut-être pas envie d'avoir ce mode de vie-là, bien qu'on nous dise, à Paris, il y a l'emploi, à Paris, il y a l'offre. Voilà. Donc, étant donné ces éléments-là, comment faire pour négocier un salaire? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est sur ce point que j'aimerais avoir des réponses aussi.
Je crois que cette intervention était utile. Hein. Merci, vous me ramenez sur terre. C'est vrai que je vous ai dit, il faut que vous alliez en entretien en pensant effectivement que vous allez négocier un contrat. Vous avez raison d'apporter des bémols et de dire effectivement que le rapport de force n'est pas forcément votre faveur, en ce moment surtout. Alors, c'est une chose qui évolue quand même très vite, hein. Il faut se renseigner. Parce que d'une année à l'autre, les entreprises sont en situation de force ou de faiblesse par rapport aux candidats. Mais je prends acte de ce que vous dites et j'ajoute, parce que je sens chez vous une volonté, peut-être un héliotropisme assez marqué. Bon, alors là aussi, ça, il faut l'intégrer dans vos préoccupations. La non-mobilité géographique... Bon, c'est quelque chose qui est effectivement très handicapant. Moi, je me suis occupé dans d'autres structures que celles de Contact ou de Synact ou ici, de jeunes. Il y a une structure qui existait qui s'appelait E3JD, Espace Échange Entraide de Jeunes Diplômés, où j'ai vu des garçons ou des filles surtout, qui galéraient et à qui on proposait effectivement des jobs... peu intéressant et sous-payé à Montpellier et qui se sont épanouis en quittant Montpellier pour la région parisienne. Je vous dis pas qu'il faut le faire, je vous dis qu'il faut intégrer ça effectivement dans ces réflexions. Alors, négociation de salaire, moi je serai court là-dessus parce que je vous dirais simplement, il y a deux situations, ou bien effectivement il y a des barèmes de salaire et on vous le dira. Il faut demander, est-ce que vous avez des règles salariales? Il n'y a pas toujours, effectivement, une négociation possible. Il peut y avoir des grilles salariales propres à l'entreprise ou aux conventions collectives. Ça peut être extrêmement rigide. Moi, je sais que je n'en avais pas. Et quand je faisais du conseil pour des entreprises, comme je travaillais avec plutôt des grandes entreprises, 4 fois sur 5, il n'y avait pas de négociation possible. Il y avait des barèmes. Vous avez telle formation, vous avez telle expérience, je vous propose tant. Bon, ça c'est une situation qui peut exister, donc il faut également vous renseigner. Quant à la marge de négociation, heureusement que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un joker, je ne sais pas comment ça se passe dans les TPE, parce que c'est souvent dans les TPE qu'il n'y a pas effectivement de règles. Donc je ne sais pas si vous pouvez donner des éléments de réponse, moi je ne peux pas.
Par rapport à la négociation de salaire, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous renseigniez tout simplement. C'est-à-dire que vous avez, c'est sur le site de l'APEC, enfin Pôle emploi en l'âme, il est plus difficile à trouver, donc allez sur le site de l'APEC, et sur le site de l'APEC, vous avez des renseignements sur des fourchettes de salaire par rapport justement aux jeunes diplômiers, en fonction donc du diplôme et du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, vous allez trouver ces informations. Donc il faut vous renseigner par rapport à ça. Ce qui vous permettra effectivement d'avoir une idée, enfin, entre guillemets, de la valeur qu'on peut vous attribuer en termes de salaire. Après, le salaire, ce n'est pas que le salaire de départ. On peut aussi, et ça se fait de plus en plus, prévoir un salaire assez faible à l'embauche, mais à revoir 6 mois après. Donc il faut voir comment on va apprécier votre évolution dans l'entreprise et l'évolution quelque part de votre compétence. Donc ça, voilà, c'est plutôt sur ce côté-là que la négociation va se faire. C'est-à-dire sur l'évolution du salaire, prévoir dès le départ comment va évoluer votre salaire. Ça se négocie, donc par rapport, dans le contrat, il faut que ce soit noté, que votre salaire sera réévalué. Après, comme je dis tout le temps, dans une entreprise, il faut être sur un rapport de confiance. Donc c'est écrit dans le contrat, ça va se passer comme ça. On ne peut pas imaginer que l'employeur qui va écrire quelque chose noir sur blanc ne va pas le faire. Mais c'est vrai que dans les petites entreprises, c'est de plus en plus comme ça. Il faut avoir donc cette notion, voir effectivement quelle est votre valeur en allant chercher les chiffres sur le site, et ensuite prévoir une évolution de salaire fixée au contrat dans le temps.
Ce que je me suis toujours refusé à faire, parce que je ne veux pas prendre d'engagement, de même que l'on parlait tout à l'heure de plan de carrière, je ne veux pas entrer dans les détails, j'étais dans une entreprise où il y avait cohabitation entre la convention collective du pétrole et la convention collective de la chimie. La convention collective de la chimie prévoyait des augmentations de salaire dans les premières années en fonction du niveau de formation. C'est-à-dire que les docteurs pensaient que la chimie, c'était très bien, parce qu'on me garantit effectivement une évolution salariale et une évolution de classification. Il n'y en avait pas dans l'industrie du pétrole. Et j'appliquais l'industrie, les conventions collectives de l'industrie du pétrole, parce qu'une entreprise ne peut pas dire, encore une fois, un recrutement, c'est un pari. Hein? Aujourd'hui, je pense que ça va marcher. Je fais un pari sur votre probabilité de réussite dans mon organisation. Et on n'est pas interchangeable. Ailleurs, je ne sais pas, et vous, hein, autre que vous, je ne saurais pas. Mais je fais un pari. Et je ne vais pas dire, je m'engage effectivement à vous faire passer en coefficient 3-2 dans 6 mois et à vous donner une augmentation de salaire. Ça, je suis presque déontologiquement contre. On verra. Hein, on verra, ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite. Je ne m'engage pas. Alors, vous avez utilisé un mot qui, moi, personnellement, me hérisse. Ce sera en entretien, je ne le mettrai pas à votre actif. C'est le mot de garantie. Hein? Attention, je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir effectivement une garantie. On n'est pas dans l'administration, même si je suis entouré de... Ah oui, je m'attendais à ça, Naïma. Mais je le dis quand même. On n'est pas dans l'administration au sens le plus vieillot du terme, où il y a effectivement des augmentations qui sont à l'ancienneté. Et non, mais quelle garantie y a-t-il ? Le mot était maladroit. Je reviens à la notion de contrat. On démarre comme ça, ça peut aller vite. Moi, j'étais en situation, même en cabinet, parce que je m'étais renseigné sur la façon dont travaillaient les entreprises pour lesquelles j'intervenais, en disant, moi, je peux vous donner l'exemple de quelqu'un de votre formation qui a, effectivement, 5 ans après... son entrée dans la maison, tel niveau de classification et de rémunération. Voilà la fourchette. La fourchette peut être très large. Mais voilà la fourchette. Vous évoluerez vraisemblablement dans cette fourchette. Mais je ne vous le garantis pas. Oui, c'est pour ça que le mot... Je réagissais sur le mot. Non pas l'idée que vous vous en faites. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, Corinne Navel vous a fait une réponse qui est beaucoup plus sûre, effectivement, que ce que je vous dis. Je ne sais pas comment ça se passe dans les petites organisations. Moi, j'ai surtout travaillé à l'intérieur ou comme client ou les ayant comme client avec des entreprises qui avaient des normes salariales, des grilles salariales, qui avaient une politique salariale. Et ce n'était pas un peu à la tête du client. Maintenant, votre remarque, je la prends comme argent comptant. Vous avez raison, malheureusement. Il n'empêche que essayer d'aller en entretien en mettant, beaucoup d'entre vous l'ont dit, savoir valoriser ses compétences. Si vous savez bien valoriser vos compétences, si vous savez prouver que vous êtes non pas irremplaçable sur le marché, mais que vous apportez quelque chose de précieux pour l'entreprise, vous vous êtes renseigné sur l'entreprise, et vous pouvez faire une offre de service, et là vous serez d'autant plus musclé et le déséquilibre sera un peu moins fort. Maintenant, je prague de ce que vous dites, vous avez raison. Mais attention, peut-être l'année prochaine, ce ne sera pas la même chose.